Voici donc mon dernier exposé de l'année qui parlera du pape Sixte IV. Alors, si Paul II fut un pape original à plus d'un titre, ce pape, je parle de Paul II, eut en particulier à lutter contre un esprit, une renaissance qui déplaçait toute chose, mettant les vertus antiques à la place des vertus des saints, en appelant volontiers au paganisme. Entre autres, ils blâmaient ceux qui donnaient à leurs enfants des noms païens. Que dirait-il aujourd'hui des parents donnant à leur fille le nom de la poupée maléfique que fabriqua l'odieux sorcier Cornelius? Sourions de leur ignorance. De fait, l'héritage ancien ne fut jamais méprisé par ce qu'on appelle le Moyen Âge. Ne citons que saint Thomas, remettant en vigueur la philosophie d'Aristote. Mais ces docteurs ne sont jamais allés jusqu'à l'idolâtrie des anciens, comme ce sera presque le cas dans la suite. Qu'il me soit permis de donner ci après une opinion personnelle qui ne doit rien à l'abbé Huvelin. Le retour à l'antique a profondément marqué les 4 siècles qui ont suivi. Les grands médiévaux disaient « Nous sommes des nains sur les épaules des géants ». Ils ne prétendaient pas avoir la grandeur des antiques, mais ils avaient conscience d'être allés nettement au-delà. La moindre église romane est plus que la maison carrée de Nîmes, et l'indiscutable beauté du Parthénon ne vaut pas la splendeur de nos cathédrales ogivales. Cette idolâtrie de l'époque romaine a connu un sommet au XVIIe siècle, lorsque Boileau qualifiait les arts du XIe au XIVe siècle du terme méprisant pour lui de gothique, notons en passant que ce terme n'a actuellement plus rien de péjoratif. On a même tenté alors, ai-je lu, de déguiser Notre-Dame de Paris en temple romain. Cette obsession était systématique. Au sujet de Ronsard, Boileau parlait de ses pipeaux gothiques. Son langage était pourtant parfaitement classique. Et à cette époque, Du Bellay a écrit La Défense et l'illustration de la langue française. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la littérature française connut plusieurs chefs-d'œuvre, surtout dans le domaine du théâtre. Mais dès le XIXe siècle, on vit réapparaître des sources d'inspiration différentes, notamment dans le domaine poétique. L'amour courtois n'est pas d'origine romaine. Au XIXe siècle, la sacro-sainte règle des 3 unités n'était plus respectée. N'avait pas été d'ailleurs dans le Cid. Dans le domaine de la peinture, le côté hiératique, très présent dans les mosaïques, tendait à s'estomper devant la recherche d'une représentation plus proche de la réalité, par exemple en mettant en valeur la perspective. Les corps devenaient plus souples, les gestes mieux suivis. De Botticelli au Flamand, Van der Weyden qui est des Français, Bruegel, Van Eyck jusqu'à Rembrandt, les gestes étaient mieux suivis, plus observés. Ensuite, la recherche du pittoresque prit le dessus avec ce qu'il est convenu d'appeler le baroque. Gestes grandioses, barbes en furie, écharpes battues par le vent. Des rondeurs féminines sont de plus en plus mises en valeur. Les petits angelots ont des fesses bien rondes et bien roses. J'en ai même vu à Padoue, au pied de Saint-Antoine, l'un d'entre eux suçant son pouce avec délice. Cela se termina par le style dit Saint-Sulpice, techniquement irréprochable, mais spirituellement assez pauvre. Comme l'a écrit le père Marie-Dominique Philippe, l'art naît dans l'inspiration, grandit dans la technique et sombre dans la virtuosité. Ce fut différent pour la musique, au moins à ma connaissance, parce qu'il y a fort peu de choses sur son état dans l'Antiquité. Cette idolâtrie du passé ne fut pas sans dommage sous l'influence de ce que l'on appelle bien abusivement les Lumières. Elles se traduisit par un mépris de ce Moyen-Âge, période jugée ignare et rétrograde, asservie par un christianisme intolérant à obscurantisme. L'heureuse fin de cet âge fut une renaissance, un retour à l'antique, de véritables valeurs tombées en léthargie. Voltaire parlait d'écraser l'infâme qui avait étouffé l'intelligence. La franc-maçonnerie s'était donnée pour ambition de retrouver la pureté d'un athéisme défiguré par la dictature d'un christianisme rigide, un culte envers Dieu puissant mais lointain. Un horloger laissant toute liberté à l'homme d'organiser leur société à sa guise. Et nous en voyons les résultats maintenant. Ce grand architecte est un peu comme le roi d'Angleterre qui règne mais ne gouverne pas. On ressuscite quelques mythes antiques autour de Salomon en cultivant l'ésotérisme. Par exemple, c'est à l'homme de décider du bien et du mal, comme qui, vous savez, l'avait déjà promis au jardin de l'Éden. En résumé, les papes ont eu bien raison de se méfier de ce que l'on a appelé une renaissance qui est bien plus celle du paganisme que celle de la noblesse de l'homme. Paul II mourut subitement en 1471. Il eut pour successeur Sixte IV, élu à 57 ans. Issu d'une famille célèbre, Della Rovera, il fut un des grands théologiens de son siècle. Il était entré jeune dans l'ordre de Saint-François. C'était un grand travailleur, mais très tenace, parfois même entêté. Dans le courant de sa vie, il laissa trop agir ses neveux. L'un d'eux, le plus ecclésiastique, aux mœurs austères, devait devenir le pape Jules II. Un autre, Pierre Riario, scandalisé par un luxe devenu insolent. Julien Della Rovere s'occupait d'études scientifiques, mais son point faible était la guerre. Il voulait chasser les étrangers d'Italie. Un autre neveu, Jérôme Riario, chercha à agrandir au maximum son domaine. Il finit par être assassiné. Les intrigues venaient de toutes sortes, de tous sites. Sixte IV, qui a été de 1474 à 1484, eut le tort de leur prêter complaisance. C'était d'ailleurs dans l'esprit de l'époque, les souverains se rendaient plus absolus. Cette époque vit se consolider les royaumes qui se partageaient l'Europe. Espagne, France, Angleterre, mais aussi l'Allemagne et le Danemark. L'Italie, elle, s'installait dans un pluralisme régional, chacun cherchant d'étroites relations avec l'étranger. Venise par son commerce, à travers les colonies en Orient, le duché de Savoie par ses terres françaises, et aussi par le Tessin, et ses liens avec l'Europe centrale, Milan et le Tessin avec ses robes centrales, Naples, le Sicile et la Sardaigne Athènes et la Sardaigne par ses souvenirs aragonais, Florence par la richesse de ses banquiers, etc. Il ne restait au pape que la catholicité. La monarchie pontificale, privée d'hérédité et soumise à de rapides changements, n'avait aucun appui étranger. Les papes crurent en donnant le pouvoir politique à leurs parents, en pratiquant le népotisme comme nous venons de le voir. L'absolutisme étant dans l'esprit de l'époque, citons les Médicis, Louis XI, Henri VIII, Ferdinand le Catholique, Sixte IV s'attacha à renforcer la puissance politique des États du pape en guerroyant volontiers avec ses puissants voisins, avec le projet de conquérir à la famille cette Romagne appelée à être un fief du Saint-Siège avec l'aide de leurs fils et de leurs neveux. Sixte IV s'attacha à aussi remettre en état le système financier. Sous Eugène IV, les finances étaient en bon état. Il était né économe, mais son successeur Nicolas V était très généreux et Pie II avait des besoins au-dessus de ses possibilités. Sixte IV créa et vendit des offices. Il instaura un droit sur de nombreux offices, ce qui le rendit très impopulaire. Il amassait le plus de gains possible en mettant l'exportation de ce qu'il avait lorsque les prix étaient au plus haut. Il tenta sans succès une expédition contre les Turcs, mais en lutte, sa lutte la plus acharnée fut contre Florence, tenue par les Médicis, en l'espèce par Laurent le Magnifique. Ce Laurent avait l'appui de Louis XI. Ce magnifique avait le goût des grandes fêtes. Pour célébrer la venue d'une Sforza, un parvenu qui venait d'être nommé duc de Milan, il donna un grand festin en plein carême. Machiavel lui fit remarquer qu'il faisait gras. Alors, pour mettre un signe un peu religieux dans ses fêtes, il organisa dans l'église du Saint-Esprit une représentation de la Pentecôte. Les langues de feu étaient représentées par des par des langues de véritables feux, par des bougies. Les langues de feu étaient représentées par des bougies. L'église fut à moitié incendiée. Laurent avait moins à craindre du pape que de sa noblesse. Une famille romaine qui s'enorgueillissait d'être plus ancienne que les Médicis organisait une conjuration contre eux, complot tramé au Vatican. Le pape, qui n'appréciait guère les Médicis, était-il au courant? Ce n'est pas impossible. L'assassinat de Laurent était fixé au cours d'une messe dite à la cathédrale en accord avec l'archevêque. Laurent devait être tué au moment de l'élévation. Au dernier moment, tout échoua à cause du scrupule du capitaine chargé de l'exécution qui a dit « Je me suis loué pour un assassinat, je ne demande pas mieux que l'exécuter, mais non pour faire un sacrilège. » On tua son neveu, mais Laurent s'enfuit par la sacristie. Il se vengea en faisant pendre l'archiprêtre de tous ses ornements, avec tous ses ornements, avec deux de ses prêtres conjurateurs. Sixte IV jeta l'interdit sur Florence. Louis XI, ami de Laurent, tenta d'agir pour lever cet interdit. Il menaça de remettre en vigueur la pragmatique sanction. En attendant, il retira au pape le droit de nommer des évêques. La négociation dura longtemps. Sixte IV eut cette belle parole. Lorsque nous agissons bien, nous tenons pour louange la calomnie des méchants. Laurent se retourna vers le roi de Naples, en quelque sorte pour prendre le pape à revers. Tout ceci faisait l'affaire des Turcs qui mirent le pied en Italie en prenant Otrante. Le commandant de la ville auquel ils avaient prémis la vie fut scié par le milieu. Cherchant à rétablir l'unité entre les chrétiens, Sixte IV décida de lever l'interdit sur Florence. Mais avec tout cela, la foi du peuple s'affaiblissait. Les prédicateurs cherchaient à être savants, à faire étalage de leur érudition, citant plus volontiers Pétrarque et Boccace que saint Paul. Certains faisaient du théâtre, comme un certain Mariano, qui pleurait à chaudes larmes, mettant ses mains devant ses yeux, avant de jeter ses larmes sur les auditeurs. Les Italiens sont des experts en théâtre. Comme le dit l'abbé Hulin, un sermon pratique montre des choses possibles relativement faciles. Ainsi, la volonté est inclinée à bien faire. Il y eut cependant des prédications remarquables pour cela. Par exemple, saint François de Paul. Il reprenait devant de riches prélats l'idéal des premiers temps du christianisme. Louis XI, ayant entendu parler de ces miracles, voulut le voir et le fit venir à Plessis-les-Tours. Un chanoine de Salamanque, Pierre d'Osma, soutint sur la confession une thèse qui fut condamnée par Sixte IV. Il disait que l'Église n'était pas nécessaire pour remettre les péchés, car il suffit à Dieu d'entendre la voix d'un cœur humilié pour pardonner. On en rediscutera avec Luther. C'est mal connaître la nature humaine. De fait, la confession a plusieurs rôles. Elle oblige à prendre clairement conscience de ses fautes et de son insuffisance. Elle coûte beaucoup à la fierté des hommes. Encore plus des femmes, dit l'abbé Julien, mais ça, je n'ai pas expérience. Dans une bonne confession, il ne faut pas hésiter à livrer le plus triste, le plus profond de soi-même. La confession développe en nous le connais-toi toi-même et donne le courage de faire un profond examen de conscience, de donner son âme à un ami. Un psychiatre m'a dit que le succès de leur activité était d'autant plus assuré que les gens n'avaient plus confessé, ajoutant pourtant un confesseur est gratuit alors que le psychiatre est payant. De fait, la confession est la concrétisation de la phrase de l'Évangile « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ». Nous sommes vraiment des privilégiés à pouvoir bénéficier de telles grâces. N'hésitons pas à y avoir recours. Je vous prie de m'excuser pour mes hésitations, je suis un peu fatigué en ce moment. Et puis je vous souhaite à chacun un joyeux Noël, à l'année prochaine, si tout va bien et si je suis encore de ce monde.